trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Anthony Morlet-Lavidali nous accompagne, économiste au pôle macro-conjoncture de Rexecode. Bonsoir Anthony.
Bonsoir Grégoire.
Merci d'être là. Alexandre Baradez à nos côtés également. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir.
Ravi de vous retrouver. Vous êtes chef analyste chez IG et Alain Pitous nous accompagne également. Bonsoir Alain.
Bonsoir.
Vous êtes senior advisor ESG. Alain, quel est le rationnel des réactions de marché qu'on peut observer ce matin en relation, bien sûr, aux résultats du premier tour des élections législatives françaises?
Alors, la réaction du marché, c'est un ouf de soulagement. Après, je dirais si je partage ce ouf de soulagement, mais en tout cas, c'est un peu ce qu'on a vu un peu partout. C'est-à-dire qu'en fait, on avait bien baissé la semaine dernière dans la crainte de programmes majoritaires qui seraient quand même assez adverses à ce que peut espérer un investisseur classique quand il investit en bourse ou en obligation. Et puis, comme il n'y a pas de majorité massive pour le RN et que NFP semble assez loin de la majorité, bon, il y a un petit soulagement, un calcul. Ce qu'on peut lire, c'est que les investisseurs semblent s'accommoder assez facilement d'une majorité relative, voire pas de majorité, c'est-à-dire une forme de gouvernement technique. Et donc, pas de décision. Alors,
d'accord.
Pendant quelques semaines, on était avec un RN majoritaire et... sous-jacent l'idée que ça allait faire comme en Italie, ce que je crois absolument pas. Et puis là, maintenant, c'est un gouvernement technique et l'idée, c'est que ça ressemble à ce qui s'est passé en Belgique pendant quelques temps. Et même chose, j'y crois absolument pas, mais enfin, en tout cas, c'est ce qu'a l'air de penser le marché.
Ouais.
Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que c'était parti en fanfare, parce que je pense qu'il y a aussi un peu de rachats de shorts qui sont arrivés violemment.
C'est pas un soulagement excessif.
Mais là, cet après-midi, ça s'est bien dégonflé quand même. Hein,
ouais.
Parce que les marchés obligataires, on voit pas le même message. Hein, pas du tout... pas du tout de message d'euphorie, pas de resserrement massif. Enfin, on était à 80, on est passé à 72. Bon, c'est pas énorme, enfin, c'est significatif, mais c'est pas vraiment... on n'est pas revenu à 30, à 45, mettons, qui serait...
on reste dans une situation plus compliquée qu'avant le schéma politique d'avant la dissolution. Hein, il n'y a
ça
pas de doute là-dessus.
Donc voilà, c'est un petit peu de soulagement, mais je crois que, vous savez, c'est comme en montagne. Au loin, les nuages s'amoncellent et on marche vers cet endroit-là.
Ouais.
Et bon, c'est pas évident que les nuages soient passés. Avant
d'autant que, il faut quand même déjà validé avec le second tour qu'il n'y aura pas de majorité absolue pour le RN et ses associés ou ses alliés. Et deux, valider aussi qu'une situation de blocage parlementaire telle qu'on peut le supposer aujourd'hui n'est pas aussi un lot d'inconvénients importants. C'est-à-dire que Parlement bloqué, c'est peut-être le moins pire des scénarios dans le contexte actuel, mais ça veut dire aussi qu'on est bloqué.
Oui, c'est ça. Je ne veux pas prendre 30
paroles,
mais
un peu de temps.
Le point, c'est que on a cette dette très importante. On avait trois schémas pour la régler, à façon NFP, façon Macron et façon RN. La façon Macron est alignée avec ce que peut faire l'Europe, donc ça donne du temps, on va dire. Est-ce que les autres auront le même temps? Ça, c'est pas du tout dit. Et un gouvernement technique qui ne prendrait aucune mesure structurelle, parce que ça serait impossible, se retrouverait avec, à un moment donné, au moindre grain de sable, qui peut venir de l'extérieur, qui peut venir de plein de choses, et qui peut venir aussi, donc, du coup, de l'intérieur, avec une difficulté qui serait assez difficile à gérer, puisqu'en fait, pas possibilité de faire quelque chose de structurel, aucun soutien politique massif. Donc, on va quand même traverser à peu près mécaniquement une situation assez difficile. Alors, je crains, pour ceux qui se rappellent, les grandes périodes 2011 et co, avec réunion de crise, claquement de porte et réunion du dimanche soir, on se demande si on va...
On est dans une séquence qui peut mener à nouveau à ce genre de...
C'est un scénario de crise.
D'accord.
Classiquement, et on l'avait quand la France a été dégradée, il y avait cette idée qu'il y avait un scénario de crise, mais qui était à quelques pourcents, mais presque rien. Là, on est sur un scénario de crise qui est de l'ordre, pour moi, de au moins 20%.
D'accord.
Et là, ça commence à devenir significatif. Et alors, je sais bien qu'on ne peut pas gérer avec un scénario de crise, mais la différence, c'est que gérer avec un scénario de crise à 1%, c'est...
Ouais.
C'est
20%, c'est on est obligé d'en tenir compte.
Bah, à un moment donné, oui. Et ça, je pense que ça va rester un petit moment, au moins, je pense, une année, quoi. Donc, c'est quand même une situation qui est assez difficile, je trouve, pour la France.
Alexandre, comment vous avez regardé les réactions de marché depuis ce matin, avec, c'est vrai, un rebond du CAC qui a été violent à l'ouverture, je crois qu'il y a un gros gap ce matin, mais qui finit par s'effriter. On va gagner, allez, autour de 1,5, c'est bien, mais c'est pas un soulagement très... rempli de conviction, j'ai envie de dire.
Non, c'est vrai que la volatilité qui était à peu près à 19 en fin de semaine dernière, on est arrivé dans la zone des 17, là où les marchés US sont toujours à 13 de volatilité. Donc il y a aussi ce gap de volatilité par rapport au marché américain qui est devenu un peu la zone refuge depuis 2-3 semaines.
C'est l'autre spread.
Voilà,
c'est ça.
L'autre spread.
Mais oui.
Alors de quel côté, ce serait bien que ce soit l'Europe qui retrouve. Moi, je crains plutôt que ça. Enfin, je crains. Je pense qu'il y a un peu de marge pour que la partie US rattrape un petit peu cette vol. On pourra en parler un peu. Après, dans la réaction de marché, c'est vrai qu'elle est assez logique. Ce qui avait souffert post-dissolution, les banques et les utilities, c'est ce qui se reprend le mieux aujourd'hui. Après, au niveau des taux, c'est vrai qu'il y a des réactions intéressantes parce que, effectivement, le spread s'est un peu resserré. On était à 85 points de base, en gros, vendredi. Là, on était à 72 ce matin, 75 maintenant. Et on voit en face de ça, par contre, le taux français qui monte. C'est-à-dire le taux français à 3,35, c'est le pic qu'il avait atteint dans les 48 heures suivant la dissolution. Donc, si on avait eu un spread qui s'accroît et un taux 10 ans français qui monte, c'était moyen. Là, le spread s'est un peu resserré, mais le 10 ans français monte. Mais quand on regarde d'où ça peut venir, pourquoi le spread se resserre alors que le 10 ans français monte, c'est plutôt côté US qu'on regarde, parce qu'on voit que le 10 ans américain, les taux longs US sont en train de repartir un peu à la hausse. Je pense sur des sujets qui sont liés à l'après-débat Biden-Trump, on en reparle aussi, où on a peut-être ce sentiment que, vu que Biden décroche les sondages, c'est Trump qui passe, du coup, des politiques fiscales pour
c'est bien la politique de part et d'autre de l'Atlantique qui drive les mouvements qu'on décrit là du jour.
Voilà, mais du coup, ça, ce serait l'aspect un peu rassurant pour la partie européenne, c'est que si le mouvement qu'on observe sur les taux français, un petit peu de retention là ce matin, vient plutôt de la partie US, c'est peut-être moins lié du coup à la problématique franco-européenne. Alors après, pour répondre à ce que vous avez dit, Alain, c'est intéressant, c'est vrai qu'à l'époque en 2011, si on se souvient bien, c'est dans la gradation des risques, on a l'impression que là, déjà de l'avant-premier tour, c'était NFP qui était le plus redouté, deuxième risque RN, et puis après la partie centre qui était plutôt rassurante.
Attends, 2017
là, non, juste le, après ce premier tour-là, la gradation du risque pour les marchés, NFP, ça aurait été ce matin, pas parce qu'on a eu, ça aurait été moins 5, moins 10.
Ouais.
À l'époque de la crise
en 2011.
Dette, voilà, à l'époque, c'était ça qui avait aussi mis le fou. Et je pense que c'est ça que le marché craignait beaucoup. C'est que si on aime bien à l'époque du gouvernement grec, c'était Varoufakis, donc c'était vraiment l'extrême gauche grecque, qui le claquement de porte, c'était exactement ça. Ils sortaient des réunions, on s'en fout de l'Europe, etc. Ça, le marché avait détesté, et c'est là qu'il y avait la contagion avec l'Italie et le reste. Donc là, le fait d'avoir effectivement NFP un peu out, qui va s'arranger dans des arrangements pour le second tour, etc., reste le, entre deux mots finalement, le marché se dit bon, mieux vaut effectivement un blocage que des politiques radicales qui seraient plus dures à maîtriser. Mais c'est vrai que c'est entre deux mots parce que la question du blocage, ça veut aussi dire qu'il y a des exigences par rapport à Bruxelles qui vont arriver. On s'est fait dégrader, Bruxelles a lancé contre plusieurs pays des procédures, etc. Donc je crois que c'est avant la rentrée qu'il va falloir donner un peu des gages de sérieux budgétaire.
Bien sûr. Plus préparer le budget 2025.
Oui. Mais alors justement, je vais être un poil plus positif qu'Alain. Moi, je pense que face à ça, si ça devait déraper, par exemple, après le second tour, et pas tout de suite, peut-être, je ne sais pas, juillet, qu'il y aurait une espèce, même s'il y avait une coalition, enfin, d'un bloc parlementaire qui n'arrive pas à s'entendre, est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de réelle politique française ? C'est-à-dire, se dire, face à un risque qui nous concerne tous, trouvons, même si on ne s'entend pas du tout, des solutions pour éviter de se faire taper sur le dos par Bruxelles. Est-ce qu'il n'y aurait pas une espèce d'intelligence politique à un moment donné qui prendrait le dessus par rapport aux tensions partisanes ?
La peur de se faire taper dessus par Bruxelles ou la peur de se faire taper dessus par les marchés ?
D'accord. Les deux, si Bruxelles tape dessus, que les marchés réagissent, voilà, ce sera ça le sujet. Donc j'aurais tendance à penser que le CAC a touché des niveaux qui sont, je trouve, attrayants pour un investisseur à 12 mois, 18 mois, même 6 mois, 12 mois, et avec un risque de capitulation à 7000 si, après le second tour, on flirtait avec la majorité absolue. Mmh. J'ai l'impression que le 7000, pour moi, c'est la zone un peu de capitulation possible, et que la zone médiane, risque médian, c'est la zone actuelle. Je ne suis pas convaincu qu'on ira chercher...
Parmi les scénarios de risque qui restent encore sur la table, à savoir celui notamment d'une majorité absolue du RN et de ses alliés, vous dites, le pire nous ramènerait un CAC autour de 7000 points.
J'ai l'impression parce que l'épisode politique s'inscrit dans un momentum pour l'Europe qui était plutôt pas mauvais depuis quelques mois, avec les PMI, 7 mois d'affilée de redressement, les baisses de taux de la BCE commencent à arriver, l'Allemagne qui commence à aller un peu mieux, on voit que des baisses de taux, de baisses de fiscalité pourraient s'améliorer un peu aussi, enfin, l'Allemagne réfléchit à des baisses d'impôts, et la Chine qui va moins mal qu'à une époque. Je trouve que le momentum européen, si la politique ne casse pas ça, on est plutôt toujours en ce momentum-là pour l'instant. Mmh.
Ce qui est intéressant, Anthony, chez Eric Seckold, c'est que plutôt que de vous perdre dans des conjectures en fonction des différents scénarios, vous avez décidé de refaire un travail un peu de fondamental, partant des fondamentaux de l'économie française, du diagnostic et des problèmes qu'il y a à régler aujourd'hui et demain, j'entends, sur du moyen long terme. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de la situation fondamentale de l'économie française aujourd'hui, et est-ce qu'elle est capable de résister à un choc d'incertitude, alors qu'il sera peut-être en partie levé dimanche, mais qui est une incertitude qui pourrait aussi devenir un risque réel pour l'avenir, en tout cas du point de vue des marchés des investisseurs.
Complètement. Alors, pour reprendre notre démarche, on s'est dit qu'on n'allait pas céder à la frénésie des chiffrages pour deux raisons. C'est que d'une part, on n'évalue jamais les mesures à périmètre constant. Les programmes sont extrêmement changeants. Et deuxièmement, pour évaluer correctement des programmes, il faut absolument faire un bouclage macroéconomique complet. Parce que c'est comme ça qu'on mesure l'effet de l'ensemble d'un programme. Et ça, c'est très difficile à réaliser. Très souvent, les chiffrages sont faits uniquement en première approche, sans mesurer les effets d'entraînement. Donc, on s'est dit, on va pas céder à cette frénésie-là. Et on va simplement essayer, modestement, mais avec précision et pédagogie, de dresser la situation de l'économie française, les défis auxquels elle est confrontée. Et surtout, rappeler quelque chose de fondamental. C'est qu'il y a assez peu de politiques économiques qui sont intrinsèquement mauvaise ou intrinsèquement bonne. Il y a en revanche des politiques économiques qui s'inscrivent dans des contextes. Et il faut faire le bon diagnostic pour que le remède qu'on cherche à appliquer traite un problème précis bien identifié. Et pour prendre deux exemples très rapides, nous, ce qu'on a essayé de montrer, par exemple, sur la réindustrialisation, tout le monde en parle aujourd'hui, on cherche à refaire fleurir du tissu industriel dans nos territoires. Il est évident que la désindustrialisation française a pâti essentiellement d'un problème de compétitivité. On a une offre qui n'est pas suffisamment compétitive à l'international. Et tout ce qui va venir rajouter du coût du travail, en tout cas l'augmenter ou alourdir la fiscalité dans un contexte où on a déjà une compétitivité qui a souffert par rapport à nos partenaires européens, ça nous paraît être une stratégie probablement n'est pas optimale.
Différent de l'Espagne, par exemple, qui, elle, a vraiment vécu un sacré choc de compétitivité et qui peut se permettre de remonter de 30 ou 40%, même, je crois, son salaire minimum aujourd'hui.
Exactement. Et puis, on ne part pas du même niveau. Nous, on a un salaire minimum aujourd'hui qui est déjà très élevé. C'est plus de 60% du salaire médian. Donc, ce n'est pas du tout la même chose de relever un salaire minimum quand vous êtes déjà à un niveau extrêmement élevé par rapport à votre salaire médian, alors que d'autres pays sont relativement éloignés. Là, ça n'a pas du tout les mêmes conséquences en termes d'emploi. C'est des effets non linéaires. Et le deuxième point qu'on a cherché à rappeler, par exemple, pour illustrer un peu la chose, le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, on a eu le sentiment dans le débat que ça pouvait se décréter. Pas du tout. C'est un processus économique qui vient des gains de productivité. C'est parce que vous produisez plus par heure travaillée que vous pouvez redistribuer des revenus. Après, vous la louez au capital ou au travail, mais à l'origine est la production. Donc il ne faut pas du tout se leurrer là-dessus. C'est avant tout un processus économique. Il faut chercher à faire des gains de productivité, mais on ne le décrète pas, le pouvoir d'achat.
À court terme, sur le plan économique, conjoncturel, j'ai envie de dire, Anthony, qu'est-ce que cette incertitude politique en France ces dernières semaines, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence ?
Il y a deux éléments. L'apaisement qu'on voit sur les marchés, il est un peu moins vrai dans l'économie française. Je pense qu'il y a deux risques du côté des entreprises. C'est d'une part un gel des recrutements. Je crois qu'il faut faire attention, on a eu quand même une bonne dynamique de l'emploi jusque-là. On a créé 1,3 million d'emplois depuis 2019, c'est colossal. On avait vraiment, c'est aussi ce qui a conduit à un recul de la productivité, mais on avait une très bonne dynamique de l'emploi. Donc attention au périmètre emploi. Et deuxièmement, sur les investissements. On a déjà deux trimestres consécutifs de baisse de l'investissement productif en France. Attention à ne pas amplifier cette tendance. On sent de l'inquiétude du côté des chefs d'entreprise, c'est les retours que l'on a. On pourrait se diriger dans quelques trimestres vraiment de contraction plus puissant, et ça impacterait significativement la croissance cette année. Or, on a besoin de croissance notamment pour la soutenabilité des finances publiques. Alors, on parlait, et je crois que c'est un point très important, on ne se rend pas compte à quel point boucler le budget 2025 va être compliqué. On a un déficit aujourd'hui de 5,5% du PIB qui est structurel. Il n'est pas conjoncturel. C'est pas l'effet du cycle. C'est un déficit où il va falloir faire des économies budgétaires importantes, et ça, c'est le plus dur à résorber. C'est pas la conjoncture qui nous permettra d'effacer notre déficit public.
C'est une situation qui balaye le momentum qu'on avait là pour les actifs européens depuis quelques semaines, quelques mois. Il y avait ce petit redécollage conjoncturel, cette reprise, une BCE un peu moins verrouillée qui enclenchait quand même le mouvement de baisse de taux. Les investisseurs globaux commençaient à se réintéresser à l'Europe notamment.
Ben, j'ai l'impression que, c'est ce que vient de dire Anthony, c'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a le côté l'arrêt. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que beaucoup de projets vont être arrêtés.
Et gel.
Gelé. Ah oui. Alors, le problème, si vous voulez, c'est quand vous êtes dans le business, vous voyez bien. Hein, c'est-à-dire qu'un projet qui est arrêté, un projet technique qui demandait des investissements, qui est arrêté, on l'arrête pour 2024. On ne le remet pas au budget 2025, on ne le remettra pas au budget 2026. Ouais. Hein. Une grande entreprise ne fera pas ça. Elle fera autre chose parce que les conditions techniques, l'environnement a changé. Et l'autre point, et je pense que c'est extrêmement important pour l'évaluation des programmes, c'est un peu comme, je ne sais pas si vous avez vu cette étude qui est sortie il y a peu de temps sur un degré qui impacte, un degré de hausse des températures qui va impacter. On croyait qu'on était à 3% de PIB, on est à 12%. Parce qu'en fait, le sujet, c'est qu'on calcule des effets liés, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, par exemple, on arrête un accord de libre-échange, instantanément, ça coûte rien. Mais l'impact que ça va avoir sur toute l'économie peut être largement supérieur à ce qu'on pourrait même imaginer de pire. Donc, on est dans cette situation et je pense que les chefs d'entreprise, dans le flou artistique jusqu'au budget 2025, et normalement, enfin là aussi, j'ai entendu un truc, c'est, pour moi, c'est une énormité, le budget 2025, s'il n'y a pas de majorité, on le reconduit, il n'y a pas besoin, on reconduit 2024. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête et on reconduit le budget 2024 et c'est très bien. Mais le problème, c'est que si on fait ça, mais les marchés, ils explosent, quoi. Enfin, ils vont pas tolérer ça. Enfin, ils vont pas admettre le risque que ça induit. Et alors, si vous cumulez l'ensemble, c'est-à-dire que le ralentissement de l'économie, parce que là aussi, pardon, parce que moi je reviens sur le financement des programmes, il est lié à une économie qui fait, grosso modo, 1% de croissance. Mais si l'économie est à l'arrêt,
oui, l'équation change,
prévisions changent, mais vous êtes même plus en mesure de faire quoi que ce soit. Donc blocage des prix, hausse des salaires qui est un peu sous-jacent de toutes les idées qu'on entend un petit peu partout, baisse des taxes, etc. Enfin, tout ça, ça ne tient pas la route avec une économie à l'arrêt. Donc, sans parler de troubles sociaux éventuels, d'un RN qui aurait une majorité même relative par rapport à une situation, les enseignants, les magistrats, les fonctionnaires qui pourraient voir d'un mauvais œil.
Sentiment qu'on rentre dans une séquence qui va durer et qui va pas s'arrêter.
Donc, pour les chefs d'entreprise, c'est un peu trop durable pour que ça n'ait pas d'impact sur l'économie et puis à un moment donné, un impact sur la bourse. Donc, là encore une fois, c'est un peu un scénario de risque parce que pour moi, le scénario médian, c'est une situation à la Brexit, on va dire. C'est. Si on regarde, hein, 10% dans mes scénarios, c'est 10%. L'environnement économique international est tellement bon qu'on en profite à peu près.
Ouais.
On arrive à se faufiler dans le truc, tel le cycliste.
C'était quoi, Singapour voilà, sur la Tamise, c'est
voilà,
ça
c'est... On se faufile dans un truc comme ça. Ouais. 60%, c'est un scénario à la Brexit, c'est-à-dire en fait une sous-performance de l'économie française, durable, c'est-à-dire qui peut durer un cycle, hein, 3-5 ans, qui nous laisserait dans une situation quand même assez défavorable. Économie en baisse, les entreprises franco-française en difficulté, moins d'emplois, moins de productivité, moins d'impôts qui rentrent, enfin un espèce de truc qui est quand même vraiment pas terrible pour les marchés. Et le scénario de risque que j'évoque est quand même là.
Voilà. Bon, ce qui est intéressant, c'est que la surenchère, elle est partout. C'est ce que je disais tout à l'heure à la mi-journée pour l'émission. Enfin, si la France est dans la surenchère et crée la surprise politique de cet été, les États-Unis ne sont pas en reste. Hein. C'est-à-dire que là aussi, on est peut-être en train de basculer dans une histoire qui n'est pas du tout celle qu'on pouvait anticiper, même si j'ai l'impression quand même que les marchés avaient déjà, bien intégré l'idée qu'il y avait de fortes chances que Donald Trump puisse repartir pour un nouveau mandat.
Oui. Alors, juste avant
bien sûr, Alexandre.
À propos d'Alain, c'est vrai que globalement, sur le débat,
à propos d'Alain.
C'est que finalement, la question de la normalisation budgétaire, c'est une question qui est dans tous les cas se poser post-Covid et après, post quoi qu'il en coûte. Donc, finalement, la dissolution a accéléré cette phase, mais qui serait quand même arrivée naturellement à tous les pays qui ont fait du quoi qu'il en coûte et qui ont dérivé de manière budgétaire assez forte, dont les États-Unis aussi.
Et dont la Chine. Ouais, c'est que les deux grandes économies mondiales aujourd'hui ont des déficits absolument qui ne contrôlent plus. Donc la zone euro est un peu la seule grande zone où, hormis la France évidemment, il y a encore du sérieux budgétaire. Donc c'est peut-être aussi un peu ce qui sauve la France, c'est que finalement on est dans un paysage où les deux très grandes économies...
D'avoir remis des règles budgétaires que certains... estime plus stricte même que les précédentes règles, dans la nature des correctifs qu'il faudrait apporter, finalement, pour l'investisseur, c'est plutôt rassurant dans le contexte actuel.
Bah, en tout cas, en comparaison relative, on n'est pas si pire que ça.
Ah bah oui, mais c'est un concours de beauté. Hein,
voilà, donc, finalement, bon, c'est un élément positif quand même.
Oui, bien sûr. Un filet.
L'élément positif, il est là, c'est que finalement, ça avance un peu le calendrier. Du coup, on va devoir faire même s'il y a risque de blocage, effectivement, à l'Assemblée, le débat, c'est quand même ouvert. Quoi. Donc, les agences surveillent, Bruxelles surveille, donc on va être obligé de faire quelque chose, même si c'est relativement bloqué. Après, sur la partie américaine, c'est vrai que j'avoue, je n'ai pas compris pourquoi les taux US s'étaient redressés vendredi, alors que les chiffres d'inflation PCE aux États-Unis, Core notamment, qui sont la partie la plus surveillée par la Fed, depuis 3 mois, ont été bloqués à 2,8. Ouais. Et enfin, après 3 mois, on a un progrès qui n'est pas négligeable, on passe à 2,6. Sachant que le CPI précédemment a aussi fait des progrès. Donc, on a vu d'abord les taux partir un peu à la baisse, réaction logique, et ensuite, fin de séance US, ça s'est nettement redressé sur le 10 ans américain. Et je me creuse la tête, je ne comprenais pas d'où ça venait. Et probablement que la réponse vient de ce qui s'est passé la veille, du coup, de ce débat Trump-Biden, où effectivement la l'affaissement dans les sondages de Biden montre que Trump, pour l'instant, a la grand boulevard à l'élection, sauf changement évidemment. Et c'est sa promesse qui était la même qu'en 2016, en tout cas sur l'aspect budgétaire, pour l'aspect fiscal pour commencer. À l'époque, c'était beaucoup les entreprises. Là, c'est plus les ménages qui sont ciblés. Sauf que le déficit américain sous l'ère Biden, ça a été. Alors, il y a eu l'aspect Covid, tous les pays y ont eu droit. Mais après, ça a été prolongé avec le plan IRA, plan infrastructure, etc. On a fait courir le déficit de manière drastique. Et Anthony l'a bien noté, c'est que, sur son compte Twitter, je l'ai bien regardé, c'est que le déficit américain, notamment l'année dernière, était surtout dû à des non-prélèvements de taxes, en fait. Donc, on a laissé courir le déficit en ne prélevant pas d'impôts. Donc, comment Trump, dans ce cas-là, pourrait parvenir à appliquer une politique fiscale, sachant que le déficit est déjà élevé, si en plus le déficit a couru parce qu'on a eu des largesses fiscales, il va falloir, à un moment donné, resserrer un peu la fiscalité américaine. Mais pour la bourse, en tout cas à court terme, l'idée que Trump puisse avoir une espèce de boulevard comme ça, je pense que c'est ça qui fait monter les taux. Et puis quelques déclarations de speakers de la Fed, de type Daly ou Bostic, qui ont expliqué que, ok, l'inflation s'améliorait, c'est une bonne nouvelle, mais qu'il faudrait un set de données encore pendant quelques mois pour y parvenir. En gros, Bostic, pour lui, c'est plutôt fin d'année, première baisse. Et pour Daly, on a l'impression que c'est plutôt septembre, au mieux. Donc l'idée, c'est qu'on voit que la macro américaine semble ralentir. Indice de surprise économique. L'inflation progresse un petit peu aussi, mais il n'y a toujours pas la fumée blanche de la Fed. Et à un moment donné, pour le marché, ça peut commencer à devenir un petit peu stressant. Si les taux restent élevés, c'est d'ailleurs fort longueur. L'économie est ralentie. Et c'est là que les marchés actions, normalement en fonction d'anticipation, pourraient prendre un petit peu leur gain.
J'entends. Donc un marché américain rattrapé, effectivement, de ce point de vue-là, alors qu'il est toujours un peu en lévitation aujourd'hui, effectivement. Bon, sur l'aspect politique américaine, la composition du Congrès, il ne faut pas l'oublier, derrière la présidentielle, il y a le renouvellement de la Chambre des représentants, d'un tiers du Sénat, et est-ce que la vague Trump président, est-ce qu'elle emporte également l'ensemble du Congrès derrière?
Ça a l'air d'être parti pour. Quand on regarde localement les sondages, les républicains sont dynamiques quand même. Je pense que le Parti démocrate paye deux choses, c'est-à-dire qu'en fait, il paye ne pas avoir changé Biden, ce qui aurait dû être fait, parce que là, ils sont partis pour perdre avec Biden de manière assez certaine. Ils ne se donnent pas la chance de gagner avec un autre candidat, et plus ils vont attendre, plus ça va devenir impossible. Donc, ils payent ça, et ils payent aussi un attelage qui n'est pas NFP, mais qui est un attelage de gens qui sont très woke, pour parler assez vulgairement, et avec des démocrates bontins classiques. Et ça, ça fracture c'est-à-dire aussi une des raisons pour lesquelles ils n'ont pas de candidat. Donc, et pour rebondir aussi, je pense qu'il y a un sujet qui était absent. On a passé des mois et des mois absents sur le sujet de la dette américaine. Et là, moi, je vois, je regarde beaucoup CNBC, regarde un peu les articles de journaux. C'est un truc qui monte gentiment, problématique de dette, à un moment donné. Et si l'économie ralentit, comment on fait? C'est-à-dire qu'on peut avoir un sujet assez paradoxal qu'on n'a pas eu depuis quelques temps. C'est une économie qui ralentit avec des taux qui montent. Et ça, c'est pas dans les scénarios aujourd'hui. Donc, pour le moment, encore une fois, c'est un peu tout tient. C'est encore un scénario de risque. Désolé, je trouve que ces risques-là augmentent quand même un peu à droite à gauche, avec un effet dollar qui est assez difficile à mesurer, puisque on va avoir paradoxalement une économie qui ralentit, qui est pas très bon pour le dollar, et des taux qui montent, qui en relatif par rapport à plein d'autres pays, font qu'on a un dollar ferme. En plus, c'est ce qui pénalise beaucoup de pays. Donc, on est dans une situation qui, je trouve, est assez explosive. Et je pense que la volatilité, à un moment donné, va finir par le price. Et aujourd'hui, c'est pas le cas.
C'est intéressant parce que le marché est assez sur la retenue concernant les baisses de taux aux États-Unis pour cette année. En revanche, il envoie de manière régulière pour 2025. Et on se demande si ce qui va se passer, c'est pas plutôt l'inverse. Est-ce qu'on va pas avoir peut-être nos deux baisses de taux cette année, partant de septembre, côté Fed, avec beaucoup plus d'incertitudes sur la capacité de la Fed à aller bien au-delà en 2025?
Mais c'est toute la problématique de Trump, c'est que comme en plus il veut un protectionnisme quand même très puissant, c'est souvent inflationniste. Il y a un moment où ça peut quand même retendre un petit peu les prix aux États-Unis, et ça, ce serait pas bon du tout pour la Fed, surtout que Trump fait massivement pression, enfin il annonce faire pression sur la Fed s'il est élu, donc en plus ça génère un climat qui est quand même un climat de défiance. Donc il est certain que dans ce contexte, si Trump est élu, il est pas complètement évident que le calendrier de baisse de taux soit parfaitement respecté. Ça dépendra de la vitesse de décélération de l'économie américaine. Si ça atterrit beaucoup plus fort que prévu, là probablement qu'il y aura des marges de manœuvre, mais pour l'instant, ça décélère quand même très doucement. Et puis, il y a quelques phénomènes, pour revenir sur la discussion juste avant, qui sont assez favorables à Trump d'un point de vue économique. Quand on regarde l'emploi, par exemple, toutes les créations d'emplois depuis 2019, ce sont des emplois d'immigrés, pas du tout de natifs. Ouais. Ça, c'est typiquement le genre, de, évidemment, de statistiques qui font très, très mal à Biden, parce que c'est utilisé par Trump. Donc, on voit bien qu'effectivement, il a ce fameux boulevard. Il y a forcément des craintes de marché, d'autant qu'il n'a plus toutes les marges de manœuvre budgétaires dont il disposait lors de son premier mandat. Donc ça aussi, ça interroge beaucoup. Et sur la soutenabilité, c'est à la fin qui achète la dette américaine.
À suivre, hein, ce qui sera important maintenant, puisque le scénario Trump gagne encore en traction, quels vont être les postes clés de son administration, au Trésor, au commerce, etc.
Mais le sujet dette me semble très important, parce qu'il n'a pas l'air de vouloir la résoudre. Et il y a un moment où les investisseurs se posent quand même la question de la Chine veut détenir moins de trésoreries américains. Il faut que la zone euro dégage toujours autant d'excédents pour en acheter, c'est pas complètement gagné. Donc, dans l'environnement international, les non-résidents, il va falloir qu'ils dégagent encore des surplus massifs pour acheter la dette américaine. C'est pas sûr qu'on soit toujours dans ce monde-là.
On pourrait se retrouver avec une courbe des taux extrêmement pentue, en fait. C'est-à-dire que les taux courts baissant, une économie qui ralentit, on est bien obligé de baisser un peu les taux. Pas beaucoup, parce qu'il y a quand même un peu d'inflation à cause de mesures protectionnistes.
Mais des taux longs qui ne baisseraient pas en due proportion de la baisse des taux courts.
Taper 5 et puis des taux courts qui baissent, et ça serait assez perturbant. Alors après, encore une fois, le marché finit par s'adapter, mais il pourrait y avoir une phase un peu bizarre quand même. Hein, ce niveau d'endettement qui est mondial, en fait, pose quand même des questions quand même. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tant que les États-Unis tenaient, on avait un peu un phénomène, c'était pas très grave que les taux baissent, montent à un endroit, parce que les marchés se passent un peu moins bien sur les adjudications. Ça se passait bien aux États-Unis, puis il y a quand même ce besoin de dollars. Mais là, on pourrait avoir quand même une période d'un peu d'ajustement un peu bizarre, avec des tensions aussi sur pas mal de pays émergents. On en parle très très peu, enfin, c'est un truc qui est complètement passé sous les radars, mais ça tape quand même sur les devises de pas mal de pays quand même. Hein. Vous regardez ce qui s'est passé sur le peso, sur le
la devise le rand sud-africain, chaque pays qui a connu des élections a connu des mouvements de volatilité.
L'Asie n'est pas terrible, là ce matin c'était la Turquie, le Kenya qui fait faillite, enfin bon, c'est des signaux qui sont quand même un peu perturbants si ça venait à coaguler, en fait.
Sur les taux US, c'est ce qu'on a depuis 4 jours, en fait. Hein. Depuis la semaine dernière, le débat raté, il y a une vraie repentification. On était à moins 50 et quelques points de base, c'était quoi, mercredi, jeudi. Là, on est à moins 30 et quelques. Donc, il y a une 3-4 jours, ça va très vite. Effectivement, les taux longs se retendent, les taux courts ne bougent pas trop. Et pour l'instant, c'est une repentification qui a un peu négative marché. Elle est bien, à un moment donné, plutôt positive, marché. Là, si ça s'accentue.
C'est plus le côté croissance, inflation, au-delà du régime.
Oui, moi, je trouve que c'est pas une mauvaise chose d'un point de vue des valos. Parce que, vous en discutez régulièrement, c'est que on revient sur des valos à 21 fois les bénéfices anticipés pour les 12 mois, les 12 mois à venir. On est à 26 fois les bénéfices réalisés, on est à 36 sur le Nasdaq. Et en Europe, bon, il y a toujours ce delta par rapport à l'Europe, mais c'est de revenir sur quasiment des valos, pas tout à fait, mais de combien de fois on était dans l'histoire des 40 dernières années à 21 fois les bénéfices. Dernière fois, c'était post-Covid, c'était une mini-bulle, et la fois d'avant, il fallait remonter au subprime. C'était monté à 25,5, 26 fois pour le S&P, pas pour le Nasdaq. Ouais. Mais sinon, hormis ça, on n'y a jamais été. Donc c'est quand même des niveaux qui, par rapport à des métriques historiques, sont chers, et y revenir alors qu'on est sur du higher for longer et qu'on commence à voir l'économie US décélérer un peu, ce serait plutôt 5, effectivement, cette repentification de la courbe de taux peut-être un peu brutale, amène pas à moins 5, moins 10, ça détend un peu les...
Et ça passe forcément par une baisse, un drawdown sur les valeurs stars, méga cap, vedettes, incontournables, qui font toute la performance, qui font la cherté de l'indice, et qui font tout ça, quoi.
Si on a Nvidia qui fait moins 17 l'autre jour, ça
on a vu ça,
le Nasdaq a un peu bougé, voilà, pourtant ça fait moins 17 sur Nvidia, c'était déjà presque un bear market. Ouais. Ça, c'est pour dire qu'on peut corriger des méga caps sans que ça entraîne tout le marché à moins 30. Donc c'est plutôt sain d'avoir ça, et ça éviterait du coup à dégonfler la bulle plus tard. Si elle se dégonfle un peu d'elle-même, on reste du 20 fois les bénéfices pendant quelques trimestres, bah, tant mieux, c'est pas mauvais, ça évite les surchauffes contre lesquelles il faut lutter plus tard par des mesures plus
on imaginait qu'il puisse y avoir des rotations, notamment de taille, de facteurs, etc. C'est pas tellement ce qu'on observe, en tout cas à l'issue de ce premier semestre, au démarrage de second semestre.
Non, mais les small, je trouve, tiennent quand même pas trop mal. Moi, je fais toujours les small, je suis pas inquiet pour les small US. Il faudrait pas qu'effectivement les hausses de taux commencent à refaire un peu de stress sur les banques régionales, parce qu'il y en a quand même pas mal dans les small, dans le Russell 2000. Sinon, c'est plutôt le bottom, on sent qu'il a été. Moi, je trouve qu'il a été fait sur les small en 2021-22. Moi, le bottom est là. Donc après, c'est à quelle vitesse on trouve les niveaux les records. Mais au pire, on s'ennuie un peu, mais je vois pas le Russell repartir. Il faut vraiment un problème sur les taux sérieux. Quoi. Ouais,
donc une vraie décorrélation entre ce qu'on voit des small cap américaines et ce qu'on a espéré et ce qu'on constate finalement sur les small caps françaises, européennes.
Sur l'Europe, moi je vois ça passager sur les small caps, je sais pas. Ouais, la BCE, c'est ce que vous dites, baisse de taux aussi. Ouais. Je pense qu'on aura une deuxième en septembre, peut-être une troisième en décembre. Et en plus, il y a un peu de stress politique qui ralentit un peu.
Et ça viendra adoucir un peu ces incertitudes politiques, ça viendra.
Oui, mais c'est pour ça que je ne suis pas très inquiet, parce que les banques, justement, si la BCE baisse un peu les taux, c'est bien pour les volumes de crédit, le crédit plus abordable et les volumes. Ça ne comprime pas trop les marges bancaires, parce qu'on ne va pas retomber sur de la punition monétaire comme en 2020 ou 2021. Donc, pour les pays comme l'Italie ou autres, tous ces indices-là, même l'IBEX, il n'y a pas de banque, le MIB, moi j'aurais bien bullish là-dessus. Hein. IBEX, MIB, je vois pas de raison d'aller. C'est très consultant depuis quelques temps, donc c'est bien, ça fait un
petit peu. C'est pas un game changer encore pour vous, à ce stade. Non, mais important de le dire. Vous évoquiez le protectionnisme, Anthony, tout à l'heure. Là aussi, c'est un point d'attention qui vous intéresse beaucoup en ce moment. C'est de constater que le protectionnisme, j'allais dire le protectionnisme anti-chinois, en tout cas contre les produits chinois exportés par la Chine, c'est pas juste l'apanage des États-Unis ou de l'Europe qui tente de s'y mettre. C'est un phénomène global qu'on retrouve au sein de partenaires commerciaux très importants pour la Chine dans la zone pacifique et pas uniquement d'ailleurs.
Alors ça c'est remarquable justement effectivement ces tentatives de rétorsion douanière de la part de pays émergents.
Contre la Chine.
Contre la Chine évidemment. C'est notamment dû au fait que la Chine a considérablement accru son excédent commercial vis-à-vis de ces pays. Vis-à-vis de l'Amérique latine, vis-à-vis du Moyen-Orient, elle a rétréci son déficit. Vis-à-vis de l'ASEAN, elle a désormais un excédent absolument faramineux. L'Inde, n'en parlons pas, la Corée du Sud également. Et donc tous ces pays, on a vu l'Indonésie à deux jours potentiellement, mais des droits de douane compris entre 100% et 200% pour vraiment lutter contre le protectionnisme américain, en tout cas faire jeu égal avec les États-Unis, de manière à éviter que les produits chinois se déversent en Indonésie, puisque ces pays-là, évidemment, ont une industrie d'ailleurs qui souffre beaucoup des importations de produits chinois. Le paradoxe, c'est que dans ces économies émergentes, ils reçoivent aussi beaucoup d'IDE de la part de la Chine et des entreprises qui viennent s'installer dans leur pays. Donc c'est toute la difficulté d'arriver.
On parlait déjà avec vous de le découplage impossible entre les États-Unis et la Chine, donc je n'ose même pas imaginer entre la Chine et l'Indonésie.
Complètement, c'est très Alors, c'est, honnêtement, l'ampleur de la hausse des tarifs douaniers est assez étonnante. Il faudra voir comment les autres pays d'ASEAN réagissent.
C'est juste, ouais.
Complètement, l'Inde était plus prudente. On pourrait avoir des hausses de tarifs douaniers, mais dans des ordres de grandeur un peu plus mesurés. Mais ça va être intéressant de voir comment ces pays-là, effectivement, ménagent à la fois le fait d'attirer des investissements chinois et en même temps de mettre des barrières douanières. Puisque là, on est sur qu'est-ce qui, à la fin, c'est quoi l'équilibre qui en ressort ? Est-ce que c'est plutôt profitable de mettre des barrières douanières ou d'attirer des investissements pour développer ? Surtout que la Chine installe dans ces pays-là, notamment tous ces secteurs les plus technologiques et ceux qui sont qui ont le plus de valeur ajoutée, le solaire, l'automobile, l'éolien. Donc il y a vraiment là un arbitrage qui est pas évident et qui sera à suivre. Mais il y a le Chili également qui a monté ses tarifs douaniers sur les importations d'acier. Donc c'est vraiment un mouvement généralisé qui sera à suivre parce que les pays du Sud se rebellent un petit peu et c'est étonnant puisque la Chine désormais est un peu entourée. Elle a des tarifs douaniers
cernés par les barrières douanières.
Ça montre qu'il y a peut-être des limites quand même à l'excédent commercial chinois et qu'on ne peut pas toujours faire sa croissance sur le dos des autres. En tout cas, ça ouvre le débat.
Et en attendant, qu'est-ce que ça laisse envisager pour la dynamique du commerce mondial, des échanges là ?
Effectivement, ça s'interroge. Pour l'instant, la Chine est tellement compétitive sur un grand nombre de produits, alors pas quand on est sur des tarifs douaniers à hauteur de 100% ou 200%, mais quand c'est des petits tarifs douaniers, la Chine parvient toujours quand même à exporter globalement en masse. Donc ça n'a pas d'impact extrêmement significatif, mais attention, si on est sur une généralisation de ce niveau de tarifs
douaniers, si ça devient l'arme standard aujourd'hui,
honnêtement, on peut craindre quand même un sérieux ralentissement des échanges commerciaux. Ça sera à suivre de très près, mais pour l'instant, c'est encore des bribes. Mais voilà.
Et il y a une forte corrélation entre la croissance du commerce mondial et la croissance mondiale en général, ou est-ce qu'il y a une corrélation qui s'est un peu relâchée de ce point de vue-là ?
Alors, on était effectivement passé sous l'unité, la fameuse élasticité entre le commerce mondial et le PIB, on était repassé sous l'élasticité sur la décennie passée. Là, on retrouvait un petit peu d'allant, mais on stagnait autour de 0,8-0,9, ça sera à suivre, mais il est probable qu'on reste quand même toujours sous l'unité. Mais jusqu'alors, les projections, quand vous les regardiez, elles étaient quand même plutôt proches de 1, elles n'étaient pas non plus significativement inférieures à 1.
C'était pas la grande démondialisation.
Exactement. Donc attention, parce qu'on pourrait quand même significativement ralentir de ce point de vue-là.
Intéressant.
Oui, c'est intéressant.
Comme diagnostic.
Ce que je trouve dommage, c'est que tout le monde a la même approche, c'est-à-dire monter les tarifs douaniers. Et en fait, ça ne résout pas le problème, parce que les Chinois vont s'adapter, en fait. Donc, ils vont s'adapter de plusieurs manières. Enfin, il y a plein de manières de s'adapter. Et je pense que ce que devrait faire, en particulier, moi j'ai un zoom sur l'automobile européenne, c'est plutôt que de mettre des tarifs douaniers, il faudrait mettre des quotas, en fait. C'est-à-dire que ce qui serait. Parce qu'en fait, ils ont largement surproduit. ça permettrait de calmer leurs ardeurs, ça leur permettrait d'avoir du stock et de gérer.
De réguler, stock, quoi.
De réguler, mais vraiment, vraiment au millimètre.
Finement,
en fait.
Quoi. Bah
oui, parce qu'en fait, bien sûr. Quand vous mettez des tarifs, ils s'adaptent et ils vendent quand même. Et, alors qu'en fait, quand vous mettez des quotas, bah une fois qu'ils ont vendu 10 000 voitures en Slovénie, bah c'est fini, ils arrêtent. Quoi. Donc, et là, ça les bloque complètement et ça les obligerait à venir à la table de négociation de manière un peu plus, on va dire, plus conciliante. Enfin, parce qu'en fait, ils comprennent, et c'est normal, c'est un rapport de force entre les deux. Mais les tarifs, ça ne va pas aller. Et puis, on l'évoquait juste avant hors antenne, encore une fois, ils vont jouer sur les devises. Alors, ils sont sous surveillance aussi sur ce plan-là. Mais...
Le yuan est un peu sous pression, on est toujours un peu dans la limite haute de la bande de fluctuation quotidienne.
Ils peuvent gérer avec ça, ils peuvent faire peur avec ça. Et c'est-à-dire qu'ils peuvent dire, bah, regardez, on laisse filer, et puis advienne que pourra sur les changes internationaux. Et je dirais que, enfin moi ça reste mon antienne, hein, c'est, je pense que la volatilité remontera quand on aura un choc de change. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas loin hein, quand même, quand on regarde ce qui se passe sur le yen, ça commence à être chaud, ça commence à perturber, on voit l'économie chinoise, japonaise qui ralentit assez fortement, on a des tensions sur plein
plus
de devises.
Le yen est faible, voilà. C'est aussi une concurrence pour le yuan chinois, tout ça s'entretient. Voilà.
Pour le moment, c'est un peu... ça reste des devises, même si c'est le yen, c'est quand même important, mais on n'est pas sur euro-dollar, etc. Enfin, on est quand même sur des situations un peu différentes. Et je lisais ce matin, quand on parlait... d'ailleurs, c'était un de tes tweets hier soir. Un tweet d'Alexandre hier soir, à 23h. L'euro qui remonte un peu.
Puis tout monde... les tweets d'Alexandre soir à 23h.
J'ai les notifications. Dès qu'Alexandre tweet, il met la photo de l'arrivée de Bardet, ça. Et il a mis aussi un truc sur l'euro. Et puis je me suis dit, oui, effectivement, ouais, l'euro remonte un petit peu. Bon, il a remonté 30 centimes.
Ouais, ouais, ouais.
Enfin, 0,0003, enfin bref. Et je me suis dit, tiens, en fait, il était à combien l'euro au moment de la crise des minutes ? 1,45.
Ah bah oui. Donc,
bon. On n'est pas, sur, on n'est plus, on n'est plus dans la, on n'est plus dans la tête avec des mouvements de volatilité sur les devises très importants. Mais ça peut tanguer quand même, hein, donc on n'y est pas du tout. Encore une fois, c'est très loin. Mais je pense que si ça doit craquer à un moment donné, c'est par l'échange, parce que c'est là qu'on s'ajuste le plus facilement quand on est un investisseur international.
Puisqu'Alain nous emmène dans son scénario de crise, 20%, hein, je rappelle, c'est ça, 20% de probabilité, c'est pas nul, mais c'est pas non plus majoritaire. C'est quoi les garde-fous? La BCE commence à être interrogée hein, sur le sujet. Alexandre, ça reste un backstop ultime, évidemment. À quel niveau ? Enfin, le put de protection, il est à quel niveau, là, aujourd'hui ?
Les repères qu'on a historiques, en gros, quand tout va bien, si on prend que le cas France-Allemagne, quand tout va bien, c'est 20-30 points de base. Quand ça n'a pas du tout en 2011, c'est 190 points de base. Sachant que l'Italie, c'était beaucoup plus, hein, c'était
700, ouais, ou je ne sais plus, oui. Encore de la 7%.
Mais ça ferme maintenant, ils n'attendraient pas aussi longtemps.
Oui, oui, voilà. Et je pense que le 100 points de base, si on passe un peu au-dessus, déjà la BCE va commencer. Et sachant que si on se dit, ouais, mais la lutte contre l'inflation n'est pas terminée, est-ce qu'elle peut refaire tout de suite de l'achat d'actifs ou autre? Les exemples proches de nous au Royaume-Uni, par exemple, hein, quand ça c'est parti en vrille en fin d'année, c'est quand même deux ans. Ils avaient à peine commencé à baisser un peu le bilan, tout de suite on a racheté, alors c'est une fin de tir assez courte, mais pour couper le feu sur le marché, ça avait capitulé sur la livre, c'était reparti derrière. Donc c'est vrai que les banques centrales mettent de côté.
Enfin, c'était un choc massif, hein. Pour l'instant, ce qu'on a observé depuis 3 ou 4 semaines sur les marchés, c'est zéro.
Sans qu'une mesure pour l'instant, sans qu'une mesure. Donc lui, et même Christine Lagarde, elle avait comme une phrase qui montrait qu'avant l'élection, on ne pouvait pas donner trop de gages aux partis, sinon c'était la foire aux idées budgétaires les plus farfelues. Mais c'est quand même de dire, pour parvenir au mandat de stabilité des prix, il faut la stabilité financière. Donc la phrase veut tout dire. Si à un moment donné, même qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec la politique du pays, mais je pense qu'ils laisseront avec les Allemands qui ont déclaré ce qu'ils ont déclaré quelques jours plus tard, on laissera quand même l'incendie démarrer un petit peu, et puis on ne laissera pas non plus se propager. Mais c'est sûr qu'ils ne sauteront pas tout de suite sur les spreads 24 heures après.
Et la grosse différence, je pense, c'est qu'ils mettront directement. Des conditions. C'est-à-dire que donc avant ils ont laissé filer et puis ils sont intervenus quasiment sans condition. Ils ont juste viré un ou deux premiers ministres par-ci par-là, mais c'est pas plus que ça. Là, je pense que ils interviendront plus tôt pour éviter que ça soit trop le cirque, mais avec des conditions. Et on n'est pas prêt. Hein.
Oui, dans le cadre d'un programme. Ouais, moi, c'est toujours la question, c'est comment, par quel programme la BCE peut agir en cas de dérapage vraiment violent sur les marchés autour de la France. Et puis, quel est le niveau de stress ou de crise quand il s'agit d'un pays comme la France, deuxième économie de la zone euro, qui peut justifier une intervention discrétionnaire de la Banque Centrale Européenne.
Je rejoins ce qui a été dit, je pense que quand on commence à toucher les 100 bips, là ça commence vraiment à devenir inquiétant.
100, on m'a dit, c'est les 250-300 sur le spread italien.
C'est un peu ça.
Voilà.
Et
d'accord.
Puis, on voit bien que dans tous ces outils, notamment le fameux TPI qu'elle n'a jamais activé, mais qu'elle a mis dans sa boîte à outils, à chaque fois, normalement, les pays doivent avoir des politiques macroéconomiques saines et des trajectoires budgétaires soutenables. Et donc, en tout cas, les prendre en amont. Normalement, la BCE n'accepte pas d'intervenir. Donc, en tout cas, il y aura un duel. On voit bien que ce n'est pas des règles immuables, mais quand même, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On ne peut pas faire du déficit illimité et attendre un soutien de la BCE. Ça ne peut pas marcher.
Ça,
pas en union monétaire. Mmh. Encore une fois, la BOE est un cas particulier parce qu'elle n'a qu'un pays à s'occuper. La BCE, elle doit gérer un collectif. Pas pareil.
Moi, je me souviens, la question sur le TPI, donc le filet de sécurité qui avait été mis en place, designé en tout cas au moment de la remontée des taux en 2022, avant l'arrivée de Meloni en Italie, et donc la question concernait à chaque fois l'Italie, et si l'Italie élit Giorgia Meloni, etc., nous ne sommes pas là pour régler des choix domestiques, des problèmes domestiques issus d'un choix démocratique. C'est bien pas sûr. Ça le TPI. Hein.
Tout à fait. Sauf que Meloni s'est quand même relativement, assez rapidement formée, en tout cas,
elle
est restée dans une ligne proche de celle de Bruxelles. Elle n'a pas cédé à la tentation de faire partir l'Italie budgétairement dans le mur. Même si le déficit aussi en Italie est très inquiétant.
C'est vrai. Par ailleurs, pas sur une bonne trajectoire.
Exactement. C'est notamment soutenu par les dépenses publiques qui sont alimentées par les plans de relance avec le fameux super bonus. Là, c'est objectivement très inquiétant parce qu'on a une envolée des dépenses publiques qui est
bon, phénomène général. Concrètement, là, comment on joue, j'allais dire, quand on est investisseur, quand on est investisseur sur le CAC, là, Alexandre, c'est quoi le playbook pour les prochains jours?
Moi, je pense que l'exemple concret qu'on avait donné, c'est un investisseur qui a 1000 à mettre sur les marchés, qui a 1000, une enveloppe de 1000 euros. Les mettre 500 maintenant à 7500, ça me paraît pas idiot quand on a fait moins 9% depuis le sommet historique, qui n'était pas si loin que ça, au mois de mai. Si on va à 7000, donc on sera sur du moins 15% déjà de drawdown. Ça commence déjà à faire beaucoup.
On met 250
si on y va, moi je mettrai les 500 restants. Et si on n'y va pas, on remet les 500 une fois qu'on repasse des paliers vraiment psychologiques ou des niveaux techniques, ou aussi des moyennes de prix, qu'est-ce que sont les 8000. Surtout si on remonte à 8000 parce que les spreads se resserrent, parce que là, d'autant plus, on prend le train en marche et viser le record. Mais j'ai du mal, quand on voit l'enchaînement de creux qu'on a eu depuis le Covid, c'était le Black Swan, moins de 2 ans après, durcissement monétaire, confinement en Chine, guerre en Ukraine, on fait encore du moins 25, moins 30. Après, ça repart assez vite, à nouveau une correction de 10-12. On ne peut pas faire des moins 20 tous les 2 ans. Donc, je pense que il y a quelque chose de probabilité et la composition des indices aussi, on peut être avec les banques ou autres, qui, selon moi, peuvent, si ça, la politique française est maîtrisée, je pense que c'est des niveaux qui sont acceptables pour l'investisseur maintenant, pour prendre des risques moyens.
Résilience, quoi.
Ouais.
Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Alain Pitous, senior advisor ESG, Alexandre Baradez, IG et Anthony Morlaix-Lavidali, Rexecode.